Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Pour cette deuxième émission sur l'état bourguignon des princes de Valois, Philippe Contamine de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et Bertrand Schnerb, tous deux historiens médiévistes éminents, s'attachent au personnage un peu controversé de Jean sans peur, disons le prince de la guerre civile, controversé parce que, en fait, depuis le 19e, l'historiographie française traditionnelle n'a pas été très indulgente à son égard. Et nous verrons que quelques petits renversements de perspective voient le jour avec Bertrand Schnerb, qui apporte avec ses ouvrages du nouveau. Alors, les ouvrages en question sont « Les Armagnacs et les Bourguignons, la guerre maudite », publié chez Perrin en 2001. Il y avait eu une première édition en 1998. Et puis « Jean sans peur, le prince meurtrier », biographie Payot en 2005, et ça c'est une somme de 800 pages, et essentielle cette somme à qui veut comprendre ce temps de crise d'où émergera peut-être bien l'état moderne. Et puis enfin je rappelle l'état bourguignon 1363-1477 que nous avions déjà évoqué dans une précédente émission. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Philippe Contamine, quel a été l'apprentissage politique de Jean sans peur ? Alors, il est né à Dijon en 1371 et il est mort, on n'a pas fini d'en parler, sur le pont de Montreux en 1419. Quel est le contexte politique ?
Donc, le duc Jean, le futur Jean sans peur, a eu une éducation, une formation princière. C'est-à-dire une formation d'excellent niveau, en principe. Alors, évidemment, il y avait autour de lui toute une maison destinée à lui apprendre son futur métier de prince. C'était plus ou moins facile, mais apparemment, je pense que Jean sans peur avait les capacités de l'emploi. Il me semble qu'il a été à bonne école avec son père.
Et sa mère Philippe, aussi, Philippe, qui
absolument.
Avait l'air d'être une tête bien, bien faite.
Donc le père, la mère, donc, ont sûrement eu de l'influence sur leur fils. Et puis il y a quand même eu cette expérience décisive en 1396, ce qu'on appelle la croisade de Nicopolis, parce qu'il se trouve qu'il y avait à cette époque-là, depuis une cinquantaine d'années au moins, une poussée des Turcs ottomans, qui d'abord s'étaient emparés de la Turquie actuelle, et puis qui ensuite avaient débarqué sur le continent européen, et qui s'avançaient toujours progressivement vers le nord. Alors c'était quand même une grande source de soucis pour les Européens, pour les chrétiens latins, et comment les contenir. Alors on a imaginé en 1396, c'était probablement une initiative malheureuse, de faire ce qu'on appelle le voyage de Hongrie, puisque c'est dans cette direction-là que les troupes se dirigeaient. Et à la tête de ce voyage de Hongrie, il y avait Jean sans peur, qui à ce moment-là était comte de Nevers, et ça s'est terminé par la déconfiture de Nicopolis, en septembre 1396, Nicopolis étant à l'heure actuelle une ville située sur le Danube dans la Bulgarie. Alors il n'était pas le seul à avoir été écrasé, et il y avait également des Hongrois, du roi Sigismond, et puis il y avait des chevaliers très nombreux, originaires des différentes régions d'Occident, mais surtout de l'espace français et bourguignon, et celui que les sources appellent l'Amourad Bakin, Bajézide, n'est-ce pas, a tué à peu près tous les prisonniers, sauf ceux qui pouvaient payer une énorme rançon. D'où Jean, comte de Nevers, qui a été pendant plusieurs semaines dans l'inquiétude de sa vie, tout simplement. Ce n'est pas évident. Alors je pense que ça a été pour lui une expérience à la fois douloureuse et décisive.
J'aurais voulu qu'on insiste un petit peu sur le fait qu'il va devenir le prince de Paris, le prince de Bourgogne, le prince de Flandre et aussi le prince de Paris. Donc qu'est-ce qui se passe à Paris à ce moment-là ?
Alors là, je crois que, si vous voulez, en 1404, il y a, disons, la cour de France. Et comme son père, eh bien, Jean sans peur est partagé entre la Bourgogne, la Flandre, et puis la cour de France, il crée Bertrand Cher le sait parfaitement, une sorte de quartier à Paris, avec la tour Jean sans peur qui subsiste encore, n'est-ce pas, qu'une sorte de réduit, de coffre-fort et de réduit. Et donc, il y a des différentes forces en présence à l'intérieur de la Maison de France. En gros, on peut dire qu'il y a d'une part le roi, Charles VI, qui a une sorte de folie à éclipse. C'est ça ce qui est terrible. S'il avait été radicalement fou, mais de folie à éclipse, de temps en temps, il reprend ou il feint de reprendre les rênes du gouvernement. Donc il ne peut pas y avoir de véritable régent, c'est assez compliqué. Ça. Donc il y a Charles VI. Il y a le frère de Charles VI, Louis, duc d'Orléans, qui est un personnage fastueux, ambitieux, complexe, etc. Et puis il y a Jean sans peur, et puis il y a d'autres princes, d'autres seigneurs qui complètent le tableau, plus la femme de Charles VI, c'est-à-dire Isabeau de Bavière. Alors c'est un jeu très très complexe, et Jean sans peur est pris à l'intérieur de ce jeu.
Je crois que, oui, cette situation est pour lui extrêmement difficile. Je crois qu'un des ressorts de la politique de Jean sans peur, c'est de tenter de conserver ou de reconquérir la place que son père a occupée au sein du gouvernement royal. Il a une admiration sans borne pour son père, une affection par-delà la tombe, il a une affection extraordinaire et qui a laissé des traces pour son père, et il veut absolument maintenir la position qu'occupait son père au sein du gouvernement royal. Mais il est dans une situation beaucoup plus difficile et beaucoup plus faible, parce que son père avait, nous en avons parlé, il avait un prestige considérable, il était l'oncle du roi, il était l'oncle de Louis d'Orléans, il avait l'âge pour lui, il avait l'œuvre politique, l'expérience. Jean sans peur, il est pratiquement du même âge que Louis d'Orléans, qui va être son rival. Ils ont une année de différence. Il est plus jeune que le roi. Il n'est que donc petit-fils de roi de France, alors que son père était fils de roi de France. Et donc, il est plus éloigné de la couronne que n'était son père. Il a moins d'autorité et de prestige personnel au début de son principat. Il y a à Paris, effectivement, des concurrents, de vrais concurrents, des cours princières concurrentes. Et il y a cette situation politique tout à fait nouvelle, dû à ce vide finalement intermittent du pouvoir, dû aux crises de folie du roi. Il y a une situation vraiment qui est explosive, parce que face à Jean sans peur, le duc Louis d'Orléans, le jeune et brillant frère du roi, a une conception exclusive du pouvoir. Et d'une certaine manière, je pense que la politique de Louis d'Orléans est de limiter de manière drastique l'influence du duc de Bourgogne au sein du gouvernement royal. Cette politique va mener à une rivalité princière extrêmement violente.
Même sanglante.
Si vous voulez, cette avoir le pouvoir ou avoir du pouvoir au sein du Conseil royal, il y avait là une dimension, disons, financière, très importante. Il s'agissait d'être branché sur les finances de l'État, n'est-ce pas, et de récolter le maximum des ressources de la puissance publique, parce qu'il y avait quand même une fiscalité qui était assez bien mise en place, qui ne fonctionnait pas trop mal. Et puis d'autre part, avoir une place au Conseil, c'était de placer des hommes. Et donc il y a tout un réseau. Et il y a des réseaux, et chacun essaie de placer des hommes dans la haute administration, en particulier. Et puis, il y a également des divergences, on n'en a pas eu l'occasion d'en parler jusqu'à présent, mais des divergences sur la politique extérieure. Ne serait-ce que, par exemple, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le schisme, le grand schisme d'Occident.
L'Église.
Qui avait commencé en 1378. Bon, et qui se perpétue et qui va durer jusqu'en 1417. Eh bien, la position du duc Jean, la position du duc Louis d'Orléans n'était pas la même. Donc, il y avait également là une source de conflit. Autrement dit, est-ce que c'est une opposition des personnes qui s'exprime par une opposition des programmes ou des options politiques, ou le contraire? On peut se poser la question.
Mais on peut penser aussi, bien sûr, qu'il y a position financière, politique extérieure, l'Église, l'Empire, l'Angleterre, mais aussi politique intérieure. Est-ce qu'ils avaient la même façon d'envisager l'État? Est-ce qu'il n'y en a pas un, Orléans, qui était un petit peu plus axé autour du fait du prince, et Bourgogne qui profitait d'être un petit peu plus démagogique?
C'est-à-dire qu'au début du principat de Jean sans peur, c'est Louis d'Orléans qui a l'exercice du pouvoir, c'est lui qui exerce en fait le pouvoir. Et Jean sans peur est dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'opposition. Donc il lui est plus facile peut-être de développer des thèmes qui peuvent causer quelques soucis aux gouvernants, notamment des thèmes antifiscaux, en dire que la pression fiscale est trop importante. Cela gêne celui qui est au pouvoir et ça rend populaire celui qui, évidemment, annonce que si lui arrive au pouvoir, eh bien, les impôts baisseront. La guerre contre l'Angleterre, c'est également un thème sur lequel le duc de Bourgogne peut jouer pour montrer sa différence face au duc d'Orléans. Il y a donc toute une série de thèmes. Un autre thème qui est important dans le discours politique du duc de Bourgogne, c'est l'idée de mettre plus nettement l'action du gouvernement sous l'œil et sous le contrôle des États généraux, des assemblées représentatives, des trois ordres, si vous voulez, hein, des trois grands États du royaume, les gens d'église, la noblesse et les bonnes villes. Donc le duc de Bourgogne, qui est l'héritier, comme son père, d'une tradition de dialogue, met en avant aussi, éventuellement, cette possibilité qu'auraient les États d'avoir un droit de regard sur l'utilisation qui est faite, au moins, des finances. Donc il y a certainement une politique bourguignonne qui tient à se démarquer de la politique du duc d'Orléans.
Et qui récupère aussi les avis de la population parisienne.
Effectivement, et d'autant que le duc d'Orléans ne devait pas être très populaire, son style de vie, etc. Bon, et sa femme également, Valentine Visconti, une étrangère, une Milanaise. Donc il y avait des tas de bruits, de ragots qui couraient autour de sa personne, ou plutôt au cours de leur personne. Le résultat, mais ça a quand même été une sorte de coup de tonnerre, ce n'était pas prémédité, c'est l'assassinat, commandité par Jean sans peur, du duc Louis d'Orléans dans la nuit du 22 au 23 novembre 1407. Rue Barbette, bon, et donc effectivement, ça a frappé. On savait bien qu'il y avait des rivalités, mais on ne pensait pas que ça allait jusque-là. Et on peut dire que c'est un changement, un tournant, parce que après 1407, pendant très longtemps, jusqu'à la fin du XVe siècle, les princes, dans l'espace français, ont souvent redouté d'être assassinés. Il y avait là vraiment une méfiance, et cette méfiance existait probablement moins, ou même beaucoup moins, on la sent pas aussi présente avant 1407. C'est une sorte de, si vous voulez, les vengeances, les contre-vengeances, etc. Et c'est la responsabilité du duc Jean que d'avoir ouvert la voie à ce processus.
Mais c'est quand même un fait incroyable d'avoir osé faire ça.
Des assassinats politiques, il y en avait déjà eu. Il y en avait eu en France. Et également dans cet espace que Jean sans peur connaît bien, c'est-à-dire ce que nous appelons les Pays-Bas, en Flandre, en Brabant, en Hollande, il y a des assassinats politiques. On recourt à la violence politique. Ce qui est exceptionnel ici, c'est la qualité de la victime, c'est-à-dire que c'est le frère du roi. Par ailleurs, celui qui détient le pouvoir, le frère du roi, qui est assassiné en plein Paris. Il était accompagné de 4 personnes, donc il était totalement sûr de lui et sûr qu'on ne pourrait pas attenter à sa personne. Donc c'est vraiment une surprise incroyable et effectivement une responsabilité écrasante. C'est aussi un signe du degré qu'avait atteint la rivalité entre les deux et de la situation inextricable dans laquelle le duc de Bourgogne se retrouvait. Il est vraiment poussé là aux dernières extrémités. Ce qui est assez curieux, moi, c'est ce qui m'a toujours frappé dans cette affaire, c'est que son entourage fait bloc. Autour de Jean sans peur, il n'y a pas de défection après.
C'est un chef de clan.
Oui, alors bon, il y a eu certainement, parce qu'on ne prend pas ce genre de décision seul, c'est une décision qui a été prise en conseil. Donc ça veut dire qu'il y a autour du duc de Bourgogne des gens qui ont parfaitement accepté et qui lui garantissent leur fidélité jusqu'au bout. C'est tout à fait particulier. Mais évidemment, ça a jeté un trouble extraordinaire à la cour de France et dans tout le pays.
Donc là, effectivement, Jean sans peur, après s'être réfugié en Flandre pendant tout un temps, a osé revenir à Paris et donc il a plaidé sa cause, il a fait plaider sa cause par un certain Jean Petit, un clerc, éloquent, etc., qui a fait un grand discours en disant, selon la philosophie politique, la théologie politique de saint Thomas d'Aquin, à savoir que le meurtre du tyran, oui, le tyrannicide, est autorisé. Et à partir du moment, eh bien, Jean Petit était chargé de démontrer que le duc Louis d'Orléans avait toutes les caractéristiques d'un authentique tyran. Et donc, bon, on a toujours des arguments, donc il y a eu des contre-arguments, etc. Que craignait ou que feignait de croire Jean sans peur ? Peut-être que Louis d'Orléans finirait par évincer son frère et devenir roi à sa place. Lui ne pouvait pas devenir roi de France, c'était pas possible. Il y avait trop d'obstacles, si vous voulez, il y avait trop d'autres membres candidats. Bon, mais après tout, on pouvait imaginer que d'une façon ou d'une autre, Charles VI avait des enfants, mais justement, on l'a accusé de vouloir enlever, éventuellement empoisonner, la descendance masculine de Charles VI. Donc il y avait là une crainte.
Les princes de France meurent assez vite. Il y a une succession de dauphins au début du XVe siècle. Le roi lui-même est frappé d'une maladie mystérieuse. C'est pas ce qu'il a. Après tout, sa vie est peut-être en danger. On peut pas imaginer qu'il va enterrer tout le monde, parce qu'il ne mourra qu'en 1422, alors que les principaux acteurs seront dans la tombe depuis longtemps. Mais effectivement, il y a pour le duc de Bourgogne un risque. Alors, l'autre possibilité, c'est que, alors ça c'est peut-être, je dirais, l'argument bourguignon, c'est que ce soit une action qui vienne pour prévenir une tentative d'homicide que le duc de Bourgogne aurait pu craindre contre sa propre personne. Jean Sans Peur, malgré son surnom, est un homme qui nourrit de grandes inquiétudes, et son entourage a pu éventuellement le manœuvrer sur ce plan, en le faisant croire que des complots sourdissaient contre lui. Donc ça, c'est une possibilité qui expliquerait aussi le caractère extrême de ce recours à l'assassinat politique.
Je dirais qu'à la suite de ce meurtre de 1407, en dépit de la défense par Jean Petit, Jean Sans Peur a suscité une certaine indignation de la part des autres princes, incontestablement. Donc il a renoué avec certains d'entre eux parce que la politique est changeante et mouvante, mais quand même les princes des Fleurs de Lys et les autres princes, quand même, ils n'étaient pas d'accord avec ce procédé. Et donc, du même coup, ils ont eu tendance à faire bloc, je dis tendance, avec le fils de Louis d'Orléans, Charles le poète, qui était fort jeune et qui donc était en fait dirigé par son beau-père, Bernard d'Armagnac. Alors donc, il y a aussi cet aspect-là qui a pu avoir un certain rôle. Il s'est trouvé isolé. Il s'est trouvé isolé vis-à-vis des princes, dans le monde des princes. Mais en revanche, il avait pour lui quand même une bonne partie de l'opinion, et notamment de l'opinion urbaine, notamment de l'opinion parisienne. Bon, la bourgeoisie parisienne, pour les raisons qu'on a expliquées, mais également, en partie, l'université.
Oui, parce que l'université...
Qui était une puissance.
Oui, toujours.
Des intellectuels. Donc il avait quand même pour lui des intellectuels.
Donc nous sommes en train de commencer à nous expliquer la guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons.
Il est très clair que l'assassinat de Louis d'Orléans, et d'ailleurs dans la mémoire collective, il semble que ce soit vraiment la date importante, l'événement important et le début vraiment de la guerre. L'assassinat de Louis d'Orléans, c'est vraiment l'événement qui ouvre la période de la guerre civile.
En France, nous avons deux clans qui sont extrêmement rivaux à tous les niveaux, financiers, politiques, etc. Plus la guerre de Cent Ans, que je rappelle sans cesse au souvenir, parce qu'on ne peut pas l'oublier. Comment ça s'est articulé tout ça, Bertrand Schnerb ?
Eh bien, la guerre civile, au fond, dans sa phase active, commence dans les années 1410-1411, avec, en 1410, la constitution vraiment d'une ligue de princes hostiles à Jean Sans Peur, la ligue de Gien, qui est d'ailleurs, dont le pivot est le vieux duc de Berry, mais qui a comme chef véritable, chef militaire, le comte d'Armagnac, donc le beau-père de Charles, duc d'Orléans, fils et successeur du duc assassiné. Ce parti se constitue à partir de 1410, et là, on commence à voir apparaître dans les textes la mention des Armagnacs, le parti du duc d'Orléans, hostile aux Bourguignons, le parti du duc de Bourgogne. La situation face à l'Angleterre est une situation qui évolue, parce que le dernier roi plantagenet direct, si j'ose dire, Richard II, a été détrôné par son cousin Henri, duc de Lancastre, en 1399. En 1400, donc, le duc de Lancastre devient le roi Henri IV d'Angleterre, et à partir de là, la politique des Lancastres est une politique qui remet en cause... politique du gouvernement royal aussi, d'ailleurs, en France, qui remet en cause le régime de trêve et de rapprochement qui avait été mis en place à l'époque de Richard II.
Qui était francophile.
Qui était, disons, proche de...
Avec des nuances.
Ou une politique de rapprochement à l'égard de Charles VI. Il y a, à ce moment-là, très certainement, une politique visant à instaurer un climat, sinon de
il
paix.
Il avait épousé une fille de Charles VI.
Oui, du moins de longue trêve. Mais avec l'avènement des Lancastres, eh bien, la tension revient entre la France et l'Angleterre, et jusqu'au début des années 1410, où l'engagement militaire des Anglais en France devient de plus en plus net. D'abord parce que les partis en lutte vont appeler les Anglais à leur aide, et que les Armagnacs, comme les Bourguignons, vont passer des accords avec les Anglais.
Et que les Anglais vont se précipiter.
Et progressivement, et surtout à partir de l'avènement du fils d'Henri IV, c'est-à-dire le célèbre et fameux Henri V de Lancastre, à ce moment-là, les Anglais vont intervenir directement dans la politique française avec un objectif de conquête.
On peut se poser la question, du reste, parce qu'à l'époque, si vous voulez, au sommet, on affectait d'être profondément anti-anglais. Bon, tout le monde disait anti-anglais, nos anciens ennemis et adversaires, les Anglais, le roi d'Angleterre, notre mortel ennemi. Bon, ça apparaît à ce moment-là, au début du XVe siècle. Et donc, le duc Jean, si on l'avait interrogé, il aurait dit « mais moi aussi, je suis tout à fait anti-anglais ». Mais le duc d'Orléans disait « c'est moi qui suis le plus anti-anglais ». Donc on ne sait pas très bien, mais chacun soupçonnait que l'adversaire était moins anti-anglais que lui. Donc je ne sais pas ce qu'il en est, on peut s'interroger. Au fond, après tout, on aurait pu imaginer très bien les Armagnacs faisant partie liée avec les Angleterres. Donc il y a une sorte de surenchère qui, finalement, est un des aspects de la politique de cette époque.
Avec ceci qu'évidemment, Jean sans peur a toujours cette ambivalence ou cette ambiguïté qu'en tant que comte de Flandre, il est obligé de ménager les Anglais parce que l'intérêt des bien compris des villes flamandes, c'est qu'il n'y ait pas une guerre ouverte entre Flandre et Angleterre. Mais en tant que prince des Lys, il est obligé de se montrer hostile aux Anglais. Donc il est dans une situation un petit peu ambiguë. Et sa diplomatie est très nettement ambivalente. C'est très particulier.
Alors le but, si vous voulez, pour Jean sans peur, mais pour, c'est la même chose pour ses adversaires, c'est avoir à sa disposition la personne du roi, éventuellement la personne de la reine, et la personne des enfants royaux, surtout le fils aîné. Voyez-vous, donc en 1411, 1412, 1413, Jean sans peur regagne du terrain, puisqu'il est maître de Paris, en apparence maître de Paris, et il a à sa disposition, pour ainsi dire, Charles VI.
Oui, oui.
Alors donc, on va arriver en 1419. Le dauphin de France, en 1419, qui deviendra roi en 1422, assiste, avec un cynisme assez incroyable pour le recul du temps, à l'assassinat de Jean sans peur au nom de son oncle.
Le duc d'Orléans a été assassiné en 1407. Que l'année qui précède Montereau, le comte d'Armagnac, Bernard VII, a été massacré par les partisans du duc de Bourgogne à Paris dans des conditions abominables, et qu'une partie du personnel du gouvernement, disons favorable au parti d'Armagnac, a été également massacré à Paris. Donc il y a vraiment un enchaînement des violences, et des violences de plus en plus abominables. Vous voyez qu'en 1419, finalement, la violence qui se déchaîne sur le pont de Montereau, c'est une violence qui est vraiment nourrie par une haine recuite depuis 1407. Donc c'est plutôt une logique de vengeance, vous voyez. On peut même dire peut-être même de vengeance privée contre le duc de Bourgogne.
Oui, mais alors les conséquences vont être extrêmement importantes, parce que est-ce qu'on peut faire là aussi un raccourci en disant qu'en fait, le traité de Troyes vient du...
C'est la conséquence directe.
C'est la conséquence
directe.
Donc je
pense qu'il faut replacer les choses dans leur temps. Autrement dit, il faut remonter quand même à 1413, ce qu'on appelle la révolution cabochienne, une sorte de soulèvement populaire, démagogique, si vous voulez, à Paris. Et donc cette révolution cabochienne semble être soutenue par Jean sans peur. Donc du même coup, évidemment, les princes sont encore plus hostiles à Jean sans peur qu'auparavant. Et Jean sans peur est obligé de quitter Paris. Donc il abandonne Paris, il se réfugie en Bourgogne et puis se réfugie surtout dans le Nord. 1414, 1415, 1415 à Azincourt. Il n'est pas à Azincourt. Donc la grande bataille contre les Anglais, il était absent. Donc c'est quand même une sorte de... Normalement, il aurait dû y avoir une sorte d'union nationale. On en parlait du reste, mais ça ne s'est pas réalisé. Alors il y a donc Azincourt. Donc c'est toujours les Armagnacs qui sont au pouvoir. Et puis on continue quand même, tant bien que mal, à rechercher, puisque les Anglais ont débarqué en Normandie, Henri V, ils s'approchent de Paris, le danger est imminent. Et on s'efforce, disons, de réaliser cette union nationale. Et l'entrevue de Montereau, c'est une entrevue théoriquement d'union nationale, vous êtes d'accord ?
Oui,
donc il est allé avec un espoir de paix.
Oui. Une fois de plus, la situation est extrêmement complexe, parce que Azincourt, en 1415, ça marque le retour en force des Anglais. Henri V remporte une victoire écrasante. Jean sans peur n'y était pas, il a perdu quand même ses deux frères, Antoine, duc de Brabant, et Philippe, comte de Nevers, qui tous les deux sont tués dans la bataille. Et un certain nombre de ses hommes étaient sur place. Et il a fallu d'ailleurs qu'on cache à son fils l'imminence du combat pour que le futur Philippe le Bon n'aille pas se faire tuer lui aussi sur le champ de bataille. Donc l'arrivée des Anglais, l'irruption des Anglais sur ce théâtre d'opération et ce théâtre politique brouille encore plus les cartes. Et Jean sans peur est dans une situation très difficile parce que finalement, sur le plan diplomatique, il est un peu courtisé par Henri V. Henri V rêve déjà probablement d'une alliance avec le duc de Bourgogne. Et le duc de Bourgogne tourne autour de cette alliance sans vouloir y entrer parce qu'il se dit que justement cette figure, cette image de prince d'hélice hostile aux Anglais souffrirait beaucoup d'une alliance ouverte avec le roi d'Angleterre. Donc il n'est jamais entré directement dans cette alliance. Mais la situation s'accélère. En 1418, ses partisans reprennent le pouvoir à Paris. En 1419, il fait l'objet d'ouverture de paix de la part d'Henri V. On va négocier. Et le duc de Bourgogne va rencontrer Henri V à différentes reprises. Et il est hostile, finalement, à la trop grande... Enfin, il est face à un roi d'Angleterre qui veut mettre la main sur la couronne de France. Et Jean sans peur recule devant cette possibilité. Il n'arrive pas à entrer vraiment dans l'alliance anglaise. Et moyennant quoi, il négocie sur les deux tableaux. Il négocie avec le roi d'Angleterre, il négocie avec le dauphin Charles, qui est alors, si j'ose dire, faute de combattant, devenu le chef du parti armagnac, le chef du parti qui lui est hostile, qu'on a commencé à appeler d'ailleurs le parti dauphinois et plus tellement le parti d'Armagnac. Et donc, il négocie sur les deux tableaux. Finalement, les négociations avec le dauphin conduisent à un traité de paix, mais à la suite de ce traité de paix, lors de la rencontre de Montereau, en réalité, la haine est telle dans le camp adverse qu'on fait litière de la paix conclue et les conseillers du dauphin Charles abattent le duc de Bourgogne sur le pont de Montereau, vengeant ainsi
Louis d'Orléans
et le connétable d'Armagnac du même coup.
10 septembre 1419, sur le pont de Montereau, les précautions étaient prises pour éviter absolument qu'il y ait recours à toute brutalité, à tout recours au sang. Et on s'étonne quand même, on arrive mal à reconstituer intégralement le processus. Il faut bien le reconnaître. Il y a eu des témoignages, des enquêtes, etc. Mais il y a quand même des zones d'ombre qui subsistent. En tout cas, pour moi, le dauphin, le futur Charles VII, était au courant. Il était très jeune, on l'a mis au courant, il a fait semblant d'approuver, mais on lui a dit « méfiez-vous, il y aura peut-être du grabuge ». Et à partir de cela, eh bien, il a échappé, et puis non seulement le duc Jean a été estourbi, mais encore une partie de son entourage, une autre partie qui a été fait prisonnier, etc. Mais rien n'était prévu pour l'après, n'est-ce pas ? C'est une simple vengeance, une vengeance dans l'immédiat, un coup de sang, pour ainsi dire. Et alors donc, finalement... La défense de Dauphin Charles a été double. Disons, en douce, beaucoup de gens disaient dans son entourage, le duc Jean est mort, c'est bien fait pour lui. Bon, mais extérieurement, Dauphin Charles ne pouvait pas dire ça. Et donc il disait, malheureux concours de circonstances, geste mal interprété, je n'y suis pour rien, etc. En tout cas, ça a été pour lui, disons, un changement de la situation politique et peut-être un changement dans sa propre sentiment de culpabilité. Peut-être a-t-il été taraudé
oui.
par le remords d'avoir assassiné ou bien d'avoir accepté l'assassinat de son cousin.
Je le pense, effectivement. Et d'autant que les conséquences, évidemment, les conséquences politiques ont été extrêmement lourdes pour lui, puisque le fils et successeur de Jean sans peur, le futur duc Philippe le Bon, qui est à ce moment-là en Flandre, en apprenant l'assassinat, pour les Bourguignons, il ne fait pas de doute que c'est un traquenard, c'est un guet-apens. La version qui a été diffusée par les gens du Dauphin, fort bien d'ailleurs, largement diffusée, faisant retomber sur Jean sans peur la responsabilité de l'échauffourée, n'a pas du tout été acceptée par les Bourguignons qui voient tout de suite qu'il s'agit d'un traquenard. Et donc pour Philippe le Bon, l'urgence, c'est d'éviter que le Dauphin Charles ne s'allie avec les Anglais, avec Henri V, contre lui. Donc immédiatement, il essaie de prendre les devants en envoyant des ambassadeurs à Henri V. Et là commence très vite le processus qui va mener à une alliance du duc de Bourgogne avec le roi d'Angleterre dès la fin de 1419 et puis alors au traité de Troyes du printemps 1420.
Donc ce sont des conséquences capitales, d'autant plus qu'il va y avoir encore une fois l'esprit un peu de vengeance. Ça sera toujours ainsi, il va rester Philippe le Bon, dont nous parlerons dans une future émission, sera habillé en noir sans cesse pour porter le deuil de son père. Merci messieurs, et puis merci d'avoir répondu à notre invitation, et à la prochaine fois donc.